la montagne et j'ai eu beaucoup de plaisir à méditer, réfléchir, étudier sur ces trois pépites, ces trois béatitudes qu'on va étudier ce matin ensemble. Et j'avais envie de commencer avec ce matin en vous posant la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir faim? Il y en a qui font mieux, ouais. Et soif. Et essayez de réfléchir comment vous sentez quand vous avez faim et soif. C'est pas une sensation très agréable. Et c'est quelque chose qui touche nos besoins essentiels. Manger, boire, on en a vraiment besoin. Et Jésus va parler d'une faim et d'une soif qui touchent à autre chose, d'autres besoins que ces besoins vitaux, mais qui sont par ailleurs vitaux aussi. Donc, on continue dans Matthieu 5, on est au verset 6. Il va dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est cette justice qui peut donner une faim pareille? Et en fait, ce n'est pas la justice qu'on réclame parce qu'on se sent lésé. On peut imaginer ça, hein, crier justice, j'ai été traité injustement, je suis victime, on doit me faire justice. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Je rectifie tout de suite parce que des fois, on a envie de faire ça. Ça peut aussi prendre beaucoup de place, mais ce n'est pas de ça dont parle Jésus. Lui, il parle de justice relationnelle. Justice dans mes relations aux autres, dans mes relations à Dieu, ce qui est juste. Et souvent, la Bible nous rappelle que Dieu attend des êtres humains qui se comporte de façon juste et tout particulièrement en protégeant les plus faibles. La Bible nous parle souvent de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré, de ceux qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas se protéger. Et il attend qu'on n'abuse pas de notre pouvoir vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Donc la justice, c'est l'état en fait dans lequel on est quand on est dans des relations justes, simplement. Le psaume 11 dit de Dieu, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Donc, j'ai trouvé intéressant de voir que finalement, la justice, ce n'est pas juste quelque chose que Dieu exige des autres, mais c'est premièrement ce qu'il est, lui. Est-ce qu'il aime? Donc, s'il parle de cette faim, de cette soif de justice, c'est que c'est là la vie, et c'est là ce qui est important pour l'être humain. Il y a d'autres choses qui peuvent être des moteurs très puissants, qui peuvent pousser les gens en avant. Et Virgile, qui est un auteur latin très ancien, il parle, lui, d'une soif et d'une faim qui est très courante chez les êtres humains. Il parle de la soif d'or et d'argent. Une motivation profonde qu'on trouve chez beaucoup de personnes encore aujourd'hui, et on dirait que ce n'est pas nouveau. Et j'ai regardé une série sur la Formule 1. Et oui, je suis un peu influencée. Et j'ai été marquée par ces pilotes qui étaient animés la plupart par une soif de victoire et de gloire. C'était quelque chose de très puissant qui les motivait, qui prenait toute la place dans leur vie. Mais Jésus ne va pas dire « heureux les ambitieux, heureux ceux qui gagnent, heureux les riches Pour lui, c'est pas ça la bonne part. Elle est, ouais, dans cette béatitude, c'est heureux ceux qui ont faim de justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce texte, je trouve qu'il fait écho, il résonne bien aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une priorité. Et ça passe avant tout le reste. Alors, comment ça peut se concrétiser dans nos vies? On peut penser, je sais pas, à une collègue, un voisin, une voisine qui nous énerve ou qui, voilà, qui nous pose problème. On peut avoir faim et soif de justice dans ce cas. Ça serait de pas d'exiger pour soi quelque chose d'équitable, mais de chercher ce qui est juste dans la relation. Ce qui est, même si ça nous coûte finalement, hein, ce qui est bon, ce qui est respectueux. La deuxième béatitude d'aujourd'hui, c'est celle du verset 7 qui dit: Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. J'ai gardé exprès cette version un peu ancienne avec miséricordieux, même si c'est un mot pas très courant dans notre langage courant. On n'utilise pas tellement ce mot, il a une connotation assez religieuse. Et du coup, je suis allée chercher un peu l'étymologie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la miséricorde. Ça vient du latin, miserior, cor, c'est le cœur, hein, puis la misère, c'est-à-dire un cœur touché par la misère d'autrui. Et le petit Robert, il nous dit que la miséricorde est la sensibilité au malheur d'autrui, la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Alors c'est plus qu'une émotion, c'est quelque chose qui nous pousse à agir avec compassion, à pardonner, à offrir une seconde chance. Ça fait écho à la parabole du serviteur impitoyable où le maître reproche à son serviteur de ne pas avoir fait miséricorde alors qu'il avait lui-même bénéficié de la miséricorde. Et Jésus va dire aussi, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est le même mouvement intérieur. Mais dit à l'inverse en fait. Celui du cœur en fait qui renonce à condamner, qui choisit le pardon. Alors c'est pas très naturel. Et je pense que c'est pas pour rien que Jésus le glisse dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il faut savoir que Jésus, ses disciples, ils avaient la pratique de prier plusieurs fois par jour. Hein. Ils avaient des prières qu'ils priaient 3 à 4 fois par jour. C'était normal, c'est comme ça qu'on vivait sa foi. Et prier 3 à 4 fois, ou peut-être plus, je ne sais pas, cette prière dans sa journée. Peut-être ça permet de réorienter. Et ouais, dans sa journée, repenser à s'orienter juste et à se rappeler qu'on est bénéficiaire de cette miséricorde et de ce pardon. Donc c'est vraiment dans la logique du royaume. J'ai trouvé aussi intéressant de voir que il disait que la miséricorde était un des attributs centraux de Dieu. Donc, si Dieu est touché par la misère des hommes et leur pardonne, eh ben, on est appelé à agir pareil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense qu'on a tous connu un moment où on est blessé par quelqu'un d'autre. La réaction spontanée, ça va être d'être dans la rancune, d'en vouloir ou de se fermer. Mais quand on choisit de pardonner, ça ouvre à la liberté et ça libère les cœurs. Ça désamorce la haine aussi. Et je trouve assez beau dans ce texte, c'est pas précisé. Je sais pas si vous avez vu. Il leur sera fait miséricorde. C'est pas précisé qui. Alors, il y a des versions bibliques qui ont interprété et qui ont dit « Dieu leur fera miséricorde ». Ce n'est pas écrit, mais c'est sous-entendu un peu. Après, moi, j'aime bien le fait que ce ne soit pas écrit, parce que ce n'est peut-être pas que Dieu, c'est peut-être aussi les autres. Ça reste ouvert. Finalement, on sera jugé comme on juge les autres. Il nous sera fait miséricorde comme on est miséricordieux avec les autres. Ce n'est pas une transaction, mais une vérité spirituelle plutôt. Celui qui pardonne, je pense qu'il comprend Dieu. Je passe à la troisième béatitude aujourd'hui, qui est celle du verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, le cœur, c'est le lieu de l'intériorité. Et je crois que c'est important de comprendre que dans la Bible, c'est pas le lieu des émotions comme dans notre culture. Dans notre culture, le cœur, c'est les émotions. Voilà, c'est tout. dans la Bible, c'est beaucoup plus que ça. C'est le lieu de la volonté, c'est le lieu de la motivation, c'est le lieu de tout ce qui est intérieur, toute la vie intérieure. Donc, celui qui a le cœur pur, c'est qu'il a des motivations, des intentions pures qui s'alignent sur son comportement. Tout à l'heure, Laetitia a lu le psaume 24, où il est dit que celui qui peut s'approcher du lieu saint, de là où se trouve Dieu, en fait, il a les mains innocentes et le cœur pur. Il y a les deux, hein, les mains, ce qu'on fait, et le cœur, les intentions, la motivation. Pour entrer dans le temple, dans le lieu où il y avait Dieu, où était la présence de Dieu, il y avait toute une purification extérieure à faire. Et puis bien sûr que l'intention, c'était que ce ne soit pas que l'extérieur, mais que la personne aligne son intériorité sur la purification extérieure. Mais vous savez, comme moi, que c'est tout à fait possible d'avoir des pratiques extérieures bonnes, mais des motivations qui ne sont pas très alignées, qui ne sont pas bonnes. Ou qui ne sont en tout cas pas les mêmes. Qui ne sont pas tout à fait désintéressées, peut-être. Alors, vous me direz peut-être, est-ce que c'est possible d'avoir un cœur pur puisqu'on est pécheur? Et David va prier ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et au moment où il reconnaît sa faute d'avoir fait tuer Uri et d'avoir volé sa femme, il prie, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, crée en moi un esprit bien disposé. » Quelque part, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu pour ça. Et dans l'Ancien Testament, Dieu promet aussi hein, qu'il donnera un cœur de chair aux hommes. Donc, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui fait ça, qui permet de purifier. Et attention, quand on dit purifier, on a des fois une idée être parfait, et c'est pas ça, hein, d'accord? Être aligné, être dans la bonne motivation, être dans la bonne volonté. Finalement, l'être intérieur, la vie intérieure, c'est aussi le lieu de la relation de Dieu avec l'homme. Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. C'est rajouté de toute notre force, de toute notre intelligence, hein, d'accord? Avec tout. Et notre prochain comme nous-mêmes, pareil, avec tout notre cœur, avec tout. J'ai trouvé intéressant d'apprendre, je ne savais pas, hein, mais dans la pratique orthodoxe, les gens prient Jésus avec leur bouche et dans un deuxième temps, ils se taisent et ils prient avec leur cœur. La même prière, et j'ai trouvé intéressant finalement de faire consciemment finalement cet effort de se dire je veux que mon cœur s'aligne. Là. Michel, la semaine passée, a évoqué le fait de chercher à voir Dieu, même dans des lieux ou dans des circonstances de vie difficiles où peut-être on ne voit pas Dieu, chercher à voir où il est. Et j'ai pensé, puisque Dieu dit, hein, avec le cœur pur, on va le voir. Quand est-ce qu'on le voit? J'ai repensé aux disciples d'Emmaüs. Et c'est étonnant cette histoire où on dit que leurs yeux sont empêchés de voir Jésus. Il est là, il parle avec eux, il chemine avec eux, il mange avec eux, ils ne voient rien. Pourtant, il leur explique plein de choses. Et finalement, au moment où il rompt le pain, où il prie, tout d'un coup, tac, il voit. C'est quand même fou, je trouve, d'avoir ça. Et ça m'a fait penser à une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, elle circule beaucoup sur Internet, où vous voyez des hommes et des femmes habillés en blanc et en noir qui se font des passes, et puis on vous dit, bah, comptez le nombre de passes de ceux qui sont en blanc. Ils se font, hein? Donc vous êtes, enfin, moi, en tout cas, j'étais toute contente, j'ai bien compté, je pense que j'ai le bon nombre, voilà. Et après, on vous dit, mais est-ce que vous avez vu le singe qui est passé sur, au milieu de la scène? Moi, je n'avais rien vu. Non, j'ai compté les passes blanches, je n'ai pas vu le singe. Et forcément, en revoyant la vidéo, on le voit, ce singe, on ne peut pas le rater. Hein. Mais c'est comme si mon cerveau, notre cerveau, parce que l'être humain fonctionne comme ça, je crois que c'est rare les gens qui voient, il nous rend service. Il se dit, les trucs noirs, ça ne sert à rien, donc on va voir que les trucs blancs. Donc, on élimine, on ne voit pas. Mais pourquoi je raconte ça? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose de similaire avec notre intention, hein, notre intention, c'est de voir les passes blanches, peut-être notre intention de vie, comme notre cœur nous dirige, ça fait qu'on voit ou qu'on ne voit pas Dieu, suivant notre intention. Ça explique peut-être qu'il est là, mais qu'on ne le voit pas. Alors, quelle est mon intention profonde? Quel est mon, ouais, quel est ce qu'il y a dans mon cœur? C'est pas possible de savoir ce qu'il y a dans le cœur des autres, ce qu'il y a dans l'intention des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très difficile d'évaluer ça. Par contre, c'est possible de veiller sur son propre cœur. Et comme on l'a lu tout à l'heure, hein, c'est là qu'il y a la source de la vie. Et c'est là que Dieu se révèle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel là. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. Ces trois béatitudes qu'on a vues ce matin, la faim et la soif de justice, la miséricorde, la pureté du cœur, en fait, c'est des chemins qui se répondent un peu. Ça cherche à amener Dieu, ça pousse à chercher le bien. Et puis, le prophète Michée, il résume tout ça magnifiquement. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais moi, dans Michée, je ne connais rien, sauf ce verset qui m'a beaucoup touchée et que j'ai retenu peut-être plus facilement parce que quand j'étais enfant et ado, on le chantait. C'était un djembé qu'on chantait. Et il dit, on t'a fait connaître, ô âme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, je trouve que c'est beau. Jésus invente rien, finalement. Il reprend des choses qui étaient déjà là. Mais il les met en exergue. Et il nous rappelle que c'est le centre. Alors, si aujourd'hui, nous demandions à Dieu de renouveler en nous cette faim et cette soif de justice. Et si nous laissions le regard de Dieu aussi miséricordieux, changer aussi notre façon de voir les autres. Et si nous prions comme David, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce que c'est ça le bonheur selon Jésus. Et je vous invite à un moment de silence. Peut-être que nous aussi, on a besoin de prier avec notre cœur, d'écouter, peut-être de voir, écouter ce que Dieu nous dit, voir ce que Dieu nous montre. Amen.